C'est les deux textes liturgiques pour ce 17e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, je vous en conjure par ces chaînes que je porte pour le Seigneur, vivez d'une manière digne de la vocation dont vous avez été appelés en toute humilité et mansuétude, avec patience et soupeur mutuelle dans la charité, attentifs à garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, car il n'y a pour nous qu'un seul corps mystique, et qu'un seul esprit, de même qu'il n'y a qu'une seule et même espérance dans la vocation dont vous avez été appelés. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Père de tout, qui est au-dessus de tous et dans toutes choses, et qui habite en nous tous, béni pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa pour le tenter cette question: « Maître, quel est dans la loi le grand commandement ?» Jésus lui dit: « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable, et vous aimerez votre prochain comme vous-même. C'est de ces deux préceptes que dépendent la loi et les prophètes. » Et comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa lui-même une question et leur dit: « Que vous semble du Christ? De qui est-il le Fils ?» « De David, lui répondirent-ils. Comment donc, continua-t-il, David dans l'Esprit Saint l'appelle-t-il Seigneur, et quand il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite, que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. Si David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils ?» Et nul ne pouvait lui répondre une parole, et personne à partir de ce jour n'osa plus l'interroger. Je vais vous asseoir. N'oubliez pas que nous sommes maintenant au mois d'octobre, hein, qui est le mois du rosaire. Donc faites un effort tout particulier pour bien dire votre chapelet tous les jours pendant ce mois d'octobre. C'est aussi la coutume, avec le chapelet, au moins pendant le mois d'octobre, de réciter après le chapelet, pour ceux qui le peuvent, les litanies de la Sainte Vierge. Attention donc, pas de cours de doctrine ce mercredi, puisque je prêche une retraite toute cette semaine. Donc vous pouvez écoutez bien sûr les derniers cours sur internet, j'en ai déjà fait 3. Donc sur le nouveau site dame-marie.net, vous avez ces cours. J'insiste un peu sur l'importance de ces cours sur les actes du magistère pour bien comprendre l'enseignement traditionnel de l'Église, sur le magistère de l'Église, l'enseignement de l'Église. Donc n'hésitez pas à écouter ces cours, les travailler. C'est pas des cours qui peuvent s'écouter comme ça, comme on écoute une conférence profane. Je dirais qu'il faut travailler ces cours pour bien comprendre l'enseignement de l'Église, donc obligez-vous à travailler. Priez pour cette retraite, donc je commence demain, il y a 7 personnes qui font la retraite, on est plein en petit gîte que je loue pour la retraite, l'un d'entre eux n'est pas catholique, donc priez bien pour lui, et pour tous ceux qui font la retraite. Nous aurons le repas de paroisse le 16 octobre, on verra en fonction du temps, après je pense qu'on va arrêter pendant la période de l'hiver, et on reprendra ça au printemps ou en été, on verra. Attention pour les messes cette semaine, donc demain, lundi, messe ici à 8h. Et ensuite, ce sont les messes au gîte, là où je célèbre, là où je prêche la retraite, à l'Edergue. Messe donc mardi, mercredi, vendredi, samedi à 7h30 et jeudi, messe à 7h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chères femmes, eh bien, chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous parle du premier commandement, le plus important de la loi du bon Dieu. S'il y a un commandement qui a été galvaudé, c'est bien celui-là, précisément parce que c'est le plus important. Donc le démon fait tout ce qu'il peut pour détruire en nous la compréhension du premier commandement de Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Alors, il faut comprendre beaucoup de choses dans ce commandement. La première des choses qu'il faut bien mettre au point, bien comprendre, c'est que ce commandement inclut beaucoup de choses. Premier point important, c'est qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans suivre ses commandements. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront au royaume des cieux, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique. C'est facile de dire au bon Dieu « Je l'aime, mon Dieu, je vous aime. » Mais on prouvera qu'on aime le bon Dieu par le respect des commandements. Donc si je prétends aimer Dieu et que je me moque des commandements de Dieu, c'est-à-dire je prétends aimer Dieu mais je désobéis à sa loi qui m'est indiquée par les commandements de Dieu, je suis un menteur. Deuxième chose qu'il faut comprendre, qui est aussi fondamentale, c'est qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans avoir la haine de l'erreur. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans avoir la haine du péché. Un grand publiciste anglais, Ernest Hello, c'était son nom, qui disait « Vous pourrez prétendre et faire croire que vous êtes de la vérité, mais à cause de l'absence de haine pour l'erreur, vous montrerez aux gens que vous n'êtes pas du camp de la vérité. » Et donc, une façon de voir si on suit le premier commandement de Dieu, c'est de vérifier qu'on a dans notre cœur la haine du péché, la haine de l'erreur. Attention, pas la haine du pécheur, la haine du péché. Prenons un exemple tout simple pour expliquer ce que je vais vous dire. Imaginez deux époux. Et l'époux dit à son épouse tous les jours, « Je vous aime. » Très bien, facile. Mais comment cet époux va-t-il prouver à son épouse qu'il l'aime ? Par sa façon de vivre. Imaginez l'épouse qui a dit à son mari, « Voilà, je sais que vous travaillez dans le jardin tous les jours, je vous demande simplement une chose, s'il vous plaît. Quand vous revenez à la maison, laissez vos bottes de travail à l'entrée de la maison pour ne pas salir toute la maison. » Et que l'épouse se moque. Et il rentre dans la maison avec ses chaussures pleines de boue, il met de la boue partout. Est-ce que c'est une offense grave ? Peut-être pas. Est-ce que c'est une offense à son épouse ? Oui. C'est une offense légère. Est-ce qu'un époux qui fait ça peut dire à son épouse « Je vous aime ». L'épouse aurait le droit de dire « Vous prétendez m'aimer, mais en fait vous ne m'aimez pas, vous ne m'aimez pas parce que vous n'êtes pas capable de faire des petites choses pour moi. » Il est évident que ce que je viens de vous dire sur des choses petites, sans grande importance, s'applique bien sûr aux choses beaucoup plus importantes. Imaginez un époux qui est infidèle à son épouse, c'est beaucoup plus grave. Est-ce qu'un époux infidèle à son épouse pourrait dire à son épouse « Je vous aime » ? Bien sûr que non. En fait, c'est un menteur. Mais c'est la même chose avec le bon Dieu. Est-ce que quelqu'un qui prétend aimer Dieu et qui commet de façon délibérée des péchés véniels à longueur de journée peut vraiment dire au fond de son cœur « Mon Dieu, je vous aime ». Le bon Dieu a le droit de lui dire, tu me dis que tu m'aimes, mais en fait, par tes actions, tu prouves que tu ne m'aimes pas. Il est évident que cela s'applique encore plus pour les péchés graves. Imaginez quelqu'un qui vit dans le péché mortel et qui dit au bon Dieu, mon Dieu, je vous aime. Le bon Dieu a le droit de lui dire, tu commences d'abord par changer ta façon de vivre, puis tu prétendras m'aimer. Mais ce sont des choses absolument fondamentales à comprendre et on a bien du mal à expliquer ces choses-là à nos fidèles aujourd'hui parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mes bien chers frères. Par le baptême, notre âme est marquée du sceau de l'Esprit-Saint. Il y a un caractère en nous, caractère du baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Et le fait que nous soyons enfants de Dieu nous oblige à vivre comme des enfants du bon Dieu. Et comment vit-on comme enfants du bon Dieu ? On vit comme enfants du bon Dieu d'abord en suivant les commandements. Encore une fois, si je prétends aimer Dieu mais que je ne suis pas ses commandements, je suis un menteur. Alors, le bon Dieu ne demande pas simplement de l'aimer, mais de suivre ses commandements, mais il nous demande aussi de suivre ses commandements par amour. Pas par crainte. J'ai toujours aux fidèles, vous ne pourrez pas vivre en état de grâce pendant toute votre vie si l'unique motif pour lequel vous vivez en état de grâce, c'est la peur de l'enfer. Certes, la contrition imparfaite, c'est le regret de ses péchés par peur de l'enfer, est suffisant pour se confesser. Mais au bout d'un certain temps, ce ne sera plus suffisant. Et on risque à ce moment-là d'oublier les raisons pour lesquelles nous devons aimer le bon Dieu. Donc Dieu demande à ce que nous l'aimions et que nous suivions sa loi par amour. Et c'est dans la mesure où nous suivons la loi du bon Dieu par amour que nous serons capables de remplir notre devoir d'État. Alors essayons de décomposer ces trois parties du premier commandement. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois parties. Première partie, je suis le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. C'est le fondement de toute notre vie. Je suis sur la terre pour louer, honorer, servir Dieu, sauver mon âme. Pour ceux qui vont suivre les exercices de Saint Ignace demain, c'est la première phrase des exercices. Donc je suis sur la terre pour adorer, pour respecter, pour servir Dieu. Et le commandement explique très bien la chose. Qu'est-ce que ça veut dire servir ? Servir en latin, ça veut dire obéir. Donc je suis sur la terre pour adorer, pour respecter et pour obéir à la loi du bon Dieu. Dans la mesure où j'obéis à la loi du bon Dieu, que je pourrai prétendre aller au ciel. Et c'est pour cela que dans la liste des péchés principaux contre le premier commandement, le premier sur la liste, et c'est le péché de sacrilège. Qu'est-ce que c'est que le péché de sacrilège ? Le péché de sacrilège, c'est justement la profanation de Dieu. La profanation de la présence de Dieu dans notre âme. De même que si je fais rentrer dans un lieu parfaitement propre de la boue, ben je détruis la pureté de ce lieu. De la même façon, si je fais rentrer dans mon âme qui est créée à l'image, à la ressemblance de Dieu, je fais rentrer le péché, je détruis quelque chose. Donc la première faute la plus grave contre la première partie du premier commandement de Dieu, c'est le péché de sacrilège, qui entraîne souvent le péché de blasphème. Le blasphème, c'est quoi ? C'est un sacrilège. Chaque fois que je commets une faute grave, quelle qu'elle soit, que ce soit contre le premier ou le dixième commandement de Dieu, chaque fois que je commets une faute grave, je commets un péché de sacrilège. Parce que je profane quelque chose qui appartient à Dieu. Mon âme a été créée pour Dieu. Qu'est-ce que c'est que mon âme ? Substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, dit Saint Pie X. Capable de connaître Dieu et de le posséder parce qu'elle est immortelle. Donc la première question qu'il faut se poser, est-ce que je prends grand soin de protéger la pureté de mon âme ? Mon âme qui est, encore une fois, le temple du Saint-Esprit. Et cela ne suffit pas, mes bien chers frères. Il y a la deuxième partie du commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Celui qui dit « Mon Dieu, je vous aime », mais qui dit la même chose au faux Dieu, il n'a pas notre Seigneur Jésus-Christ. L'époux qui dit à son épouse « Je vous aime », mais qui dit la même chose à la femme du voisin, ne peut pas prétendre aimer son épouse. Ne pas oublier cette deuxième partie. Parce que j'aime Dieu, et comme il n'y a qu'un seul, je dois éliminer de mon intelligence, de ma volonté, de ma vie de chaque jour, tous les faux dieux. Et ils sont légion pour les temps qui courent. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Et là on touche au deuxième péché dans la liste que donne Saint Pie X des péchés contre le premier commandement. Il parle aussi du péché d'idolâtrie. Le péché d'adoration des faux dieux. Et encore une fois, si j'introduis dans ma vie un faux Dieu, quel qu'il soit, peut-être un Dieu matériel. Si je fais passer même mon épouse avant le bon Dieu, c'est un péché d'idolâtrie. Si je fais passer mon ordinateur, ma voiture, ou mon travail, ou l'argent avant le bon Dieu, c'est un péché d'idolâtrie. Donc il importe, mes bien chers frères, de faire cet examen de conscience et de penser, de réfléchir. Est-ce que j'ai introduit dans ma vie de tous les jours des faux dieux ? Pensez aux conséquences, hein ? On ne pense pas aux conséquences des péchés d'idolâtrie. Vous savez ce qu'enseigne l'Église sur les conséquences du péché d'idolâtrie ? Prenez l'épître aux Romains de Saint Paul, la première des 14 épîtres de Saint Paul. Première, c'est l'épître aux Romains, chapitre 1, deuxième partie. Deuxième partie, chapitre 1, l'épître aux Romains de Saint Paul. Saint Paul explique que la conséquence des péchés d'idolâtrie sont les péchés contre nature, dit-il. et explique en long et large et en travers tous ces péchés épouvantables contre nature qui se multiplient aujourd'hui comme la misère sur le monde sont des conséquences directes du péché d'idolâtrie. Et une deuxième conséquence du péché d'idolâtrie, la paresse spirituelle, la paresse intellectuelle. Parce que je tombe dans le péché d'idolâtrie, parce que je remplace le vrai Dieu dans mon âme par un faux Dieu, je ne vais plus prendre le temps d'étudier mon catéchisme, de connaître ma foi. Et donc, Saint Pédis dit qu'une des conséquences, justement, de ce refus du premier commandement, de deuxième partie du premier commandement, c'est précisément l'ignorance coupable des vérités de foi. C'est ce qu'il dit. Ignorance coupable des vérités de foi. Quand je sais que je suis en train de perdre la foi et que je n'étudie pas pour conserver la foi. Je ne prends pas les moyens pour conserver la foi. Conséquences sont là, mes bien chers frères. Il suffit d'ouvrir les yeux. Pourquoi est-ce que les Français, en France, depuis les années 50, ça a commencé déjà dans la fin des années 50, hein. Je vous en ai souvent parlé, mais il faut revenir sur ce sujet. Pourquoi est-ce que le français moyen, parce que tous les Français étaient catholiques aux années 50, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de transmettre à leurs enfants leur foi? À cause de l'ignorance coupable des vérités de foi, qui est en général une conséquence du péché d'idolâtrie. On a fait rentrer des faux dieux dans notre âme, conséquence l'idolâtrie, conséquence de l'idolâtrie, ignorance coupable des vérités de foi. Du coup, j'étais incapable de transmettre, c'était la catastrophe de la génération des années 50, des années 60, c'est ma génération, les enfants ont pratiquement tous perdu la foi. La France qui était encore catholique à 80% après la Deuxième Guerre mondiale, le pourcentage officiel, j'ai souvent cité ce chiffre qui ne vient pas de moi, c'est 2,5% de pratique en France pour les catholiques. Et encore là-dedans, on fait rentrer la pratique dans l'église de Vatican II. Mais ce qui reste, pratiquement plus rien. Conséquence du péché d'idolâtrie. Troisième partie, peut-être la plus importante sur le plan pratique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimeras ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Ça veut dire que tu vas aider, tu dois aider ton prochain, celui dont tu as la charge, pour qu'il puisse aimer Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et pour qu'il puisse aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Ça veut dire que je dois aider les âmes dont j'ai la charge pour que ces âmes puissent vivre en état de grâce. Donc le premier commandement entraîne l'obligation grave pour tous ceux qui ont charge d'âme, commencer par les parents, d'aider leurs enfants à vivre en état de grâce. Donc si je sais que mon enfant vit dans le péché mortel jusqu'au cou et que je ne dis rien, je deviens ce que l'Écriture sainte appelle un chien muet. Je vous en ai souvent déjà parlé. Le chien muet, c'est le chien de garde qui devrait aboyer pour protéger, faire fuir le loup, qui dit rien. Qui laisse le loup s'introduire dans le troupeau. Le loup vient, rentre dans le troupeau et va croquer toutes les brebis. Donc, posons-nous, mes bien chers frères, cette question absolument, absolument élémentaire. Est-ce que, justement, je fais attention à aider mon prochain à vivre en état de grâce? Donc le premier commandement ne consiste pas à aimer le prochain, mais à aimer le prochain pour l'amour de Dieu. Aimer le prochain pour aider mon prochain à aimer Dieu, donc aider mon prochain à vivre en état de grâce. Attention, je ne veux pas dire par là que les parents sont responsables de tous les péchés des enfants, ce n'est pas ce que je veux dire. Les enfants ont leur libre arbitre. L'enfant peut, ou l'adolescent, ou le jeune adulte peut malheureusement utiliser de façon déplacée, de façon déraisonnable, son libre arbitre et offenser Dieu. Mais il y a faute grave contre le premier commandement. Si je n'ai pas utilisé mon intelligence, ma volonté, ma foi dans la famille pour aider ceux dont j'ai la charge de vivre en état de grâce. Encore une fois, ouvrons les yeux, mes bien chers frères, regardons ce qui s'est passé. Pourquoi la foi catholique a pratiquement disparu en France? C'est parce que, justement, les parents catholiques ont fermé les yeux alors qu'ils auraient dû l'ouvrir. Prenons des exemples tout simples. Ce sont des exemples que je vous ai souvent déjà cités, mais qu'il faut bien, bien comprendre. Imagine un père de famille qui aime ses enfants. Et puis un de ses enfants, un jeune adulte, vit tranquillement en concubinage. Il est la femme du voisin. Ou il vit avec une femme sans être marié, marié devant Dieu. Ce qu'on appelle le péché de fornication. Dans certains cas, le péché d'adultère. Qu'est-ce que dit Saint Paul sur le sujet? Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit sur le sujet? Les fornicateurs, les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux, c'est clair. Donc, est-ce que des parents catholiques ont le droit de considérer que la concubine de leur fils fait partie de la famille? Bien sûr que non. Parce que si vous considérez la concubine de votre fils comme faisant partie de la famille, ça veut dire quoi? C'est un péché de scandale. Parce que je pousse mon prochain, je pousse mon fils ou ma fille à vivre dans l'état de péché mortel, à rester dans l'état de péché mortel, alors que mon devoir de parent, c'est d'aider mes enfants à vivre dans l'état de grâce. Et c'est ça qui a tué la foi catholique en France. C'est parce que justement à partir des années 50, puis après avec la révolution de 1968, qu'est-ce qui s'est passé? Les parents catholiques ont laissé rentrer dans leur maison, littéralement, des péchés de ce genre, qui sont multipliés à l'infini. Et les parents ont dit, j'aime mon enfant, donc je ne dis plus rien. Mais madame, si vous prétendez aimer votre enfant qui vit dans le péché mortel et que vous dites rien, vous êtes un assassin. Vous tuez l'homme de vos enfants. Ah, monsieur l'abbé, vous comprenez, aujourd'hui, en 2022, on ne peut plus expliquer les choses comme ça. Et pourquoi pas? Est-ce qu'en 2022, il faut changer la loi des commandements de Dieu? Est-ce qu'il faut changer le premier commandement? Ah, mais monsieur l'abbé, vous n'avez rien compris. Le commandement, ça consiste à aimer les gens. Alors, on va aimer toute la misère du monde. On va laisser notre pays envahi par toute la misère du monde. Et on ne fait plus rien, on ne dit plus rien. C'est ça qu'a prêché notre Seigneur? Qu'est-ce qu'il a dit notre Seigneur? Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Vous prenez un exemple tout simple. Saint Jean-Baptiste, prédécesseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean-Baptiste qui dit à l'autorité politique, Hérode, tu n'as pas le droit de vivre avec la femme de ton frère. Il avait emprunté la femme de son frère Philippe et a oublié de lui rendre. Il est en concubinage. Pourtant, c'était tout à fait au début. Qu'est-ce qu'a dit Saint Jean-Baptiste? Tu n'as pas le droit de vivre avec la femme de ton frère. Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté d'être raccourci d'à peu près 30 cm. Voilà ce que ça lui a coûté. Saint Jean-Baptiste, martyr. Mais bien, cher frère, cela doit nous aider à comprendre ces choses. Donc si la première partie du premier commandement, tu adoreras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, de tout ton cœur, est vilipendée, détruite par le péché de sacrilège, la deuxième partie, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence, est détruite par le péché d'idolâtrie, par l'ignorance coupable des vérités de foi. La troisième partie du premier commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu et détruit par le péché de scandale. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur sur ce péché, bien cher frère. Il n'est pas très aimable là-dessus. Hein. On peut presque dire que les paroles les plus dures de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile sont sur le péché de scandale. Malheur par qui le scandale arrive. Il sera meilleur pour toi d'être jeté à la terre, à la mer avec une meule de moulin autour de ton cou plutôt que d'être coupable d'un péché de scandale. Malheur par qui le scandale arrive. Donc posons-nous la question, est-ce que j'aide les gens dont j'ai la charge, les âmes dont j'ai la charge, à vivre en état de grâce? Un époux qui aime son épouse doit aider son épouse à vivre en état de grâce. Une épouse qui prétend aimer son époux doit aider son époux à vivre en état de grâce. Des parents qui aiment leurs enfants doivent aider les enfants à vivre en état de grâce. Mais monsieur l'abbé, vous êtes trop exigeant, vous en demandez beaucoup trop. Qu'est-ce que dit notre Seigneur? Relisez l'Évangile, mes bien chers frères. Si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache, jette au loin. Parce qu'il vaut mieux pour toi rentrer au ciel avec un seul œil, borgne, plutôt que de tomber en enfer avec deux yeux. Puis pour être sûr qu'on ait bien compris, notre Seigneur va répéter, si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la et jette-la au loin. Parce qu'il vaut mieux pour toi rentrer au ciel manchot, plutôt que de tomber en enfer avec les deux mains. Puis répète, si ton pied droit est pour toi une occasion de péché, coupe-le et jette-le au loin. Il vaut mieux pour toi rentrer pieds bas au ciel, plutôt que de tomber en enfer avec les deux pieds. Vous voyez, mes bien chers frères, l'importance du premier commandement. On peut vraiment dire que la première chose que le démon a attaqué, c'est précisément le premier commandement, parce que le premier commandement est le plus important de la loi du bon Dieu. Alors il est temps, mes bien chers frères, de faire un peu un examen de conscience. Où en suis-je avec l'application du premier commandement? Est-ce que je lutte de toutes mes forces pour appartenir corps et âme au bon Dieu? Est-ce que je lutte de toutes mes forces pour aider ceux dont j'ai la charge, commencer par mes enfants, pour ceux qui en ont, qui en auront? Est-ce que j'aide mes enfants à vivre en état de grâce? Ou est-ce qu'au contraire, je pratique la politique du cadavre au fil de l'eau? Je prends souvent comme exemple un autre exemple. Imaginez quelqu'un qui est tombé dans un torrent qui a été gonflé par les eaux de pluie dans la montagne, et tombé dans le torrent, puis il dévale le torrent. Et puis au bout d'un temps assez long, une demi-heure, il finit finalement, après bien des malheurs, il finit par s'accrocher une branche, s'accrocher un rocher. Il arrête sa chute. Alors il est sur son rocher, sur sa branche, au milieu du torrent, et puis il se dit, ouf, j'ai arrêté la chute. Maintenant, je peux me reposer. Non, monsieur. D'avoir arrêté sa chute, c'est la première étape. Il faut maintenant envisager la deuxième étape. Revenir au point de départ. Qu'est-ce qui est plus dur? D'arrêter sa chute, ou une fois que la chute a été arrêtée, de revenir, remonter au point de départ. Pouvoir continuer son chemin vers le sommet de la montagne. Oui, bien, chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Alors, en ce mois du rosaire, passons pour la Sainte Vierge, puisque c'est elle qui est mère de Dieu. Quand on voit l'amour extraordinaire qui unissait le cœur immaculé de Marie au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, cela doit nous donner une petite idée de quel doit être notre amour pour notre mère du ciel. N'oublions pas que la dernière chose que le bon Dieu a fait avant de mourir dans son humanité, c'était de nous donner sa mère. Fils, voici votre mère. Donc passons par la très sainte Vierge Marie et demandons-lui cette grâce, mes bien chers frères, de suivre le premier commandement de Dieu. De lutter de toutes nos forces contre tous ces péchés qui nous coupent avec le bon Dieu. Et ne pas nous dire, comme disent les modernes, mais tout le monde le fait. Alors, puisque tout le monde le fait, on suit le courant? Non. Un catholique, c'est quelqu'un qui se renonce à lui-même, qui renonce à sa volonté propre, qui prend sa croix et qui suit notre Seigneur. Alors parce que la croix est un peu lourde à porter, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il emporte les trois quarts du poids. Trois quarts du poids est porté par notre Seigneur juste devant nous. Nous, on est au milieu, on porte la croix, mais derrière, il y a encore quelqu'un qui nous aide, qui porte le dernier quart ou presque du poids de la croix, c'est notre Sainte Vierge Marie. Notre Sainte Vierge Marie, elle est là, et nous, entre les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Rester entre les deux, c'est tout. Mais le bon Dieu fait tout le travail, et la Sainte Vierge aussi, il ne reste plus rien à faire. Vous êtes entre les deux, c'est déjà pas mal. Et même si vous avez l'impression que le bon Dieu porte tout le poids de la croix avec la Sainte Vierge Marie, sa Sainte Mère, vous êtes entre les deux, c'est ce qu'il faut. Apprenez soin, bien cher frère, de bien rester entre le cœur immaculé de Marie, coincé entre le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous puissions un jour tous nous retrouver au ciel, où là, nous pourrons pratiquer de façon extraordinaire, sans aucun inconvénient, sans aucun frein, le premier commandement du bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.